France Inter.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon. Mmh.
Moi, je suis Stéphanie Lequelec. Je suis maman de 3 enfants. J'intègre l'école hôtelière à 14 ans. Quand je rentre dans ce milieu, même s'il est très dur, même s'il est très masculin, tout de suite, c'est une révélation. C'est vrai que l'endroit où je suis le plus à l'aise, c'est définitivement dans une cuisine.
Votre style de cuisine en 3 mots?
Simplicité, sincérité, percussion des goûts.
On voit que ça parle d'autre chose aussi, Top Chef.
Ah oui, bien sûr, oui. Bah, de transmission aussi, beaucoup, d'un passage de relais à des jeunes générations, de valeurs de travail, d'abnégation, d'effort, de passion, c'est un peu tout ça, Top Chef.
Heureusement qu'on a amené les filles.
Bonjour à toutes et tous. Merci, cher public, d'être à nos côtés dans le studio 180 dans l'Agora de la Maison de la Radio pour notre rendez-vous avec de grandes signatures de la gastronomie. Après Anne-Sophie Pic, Philippe Etchebest, Jean-François Piège, Olympe Versini, Emmanuel Renaud, Hélène Darroze, Pierre Gagnaire, Régis Marcon et Alexandre Gauthier, l'invité de la 10e masterclass dont va déguster est une femme chef incontournable dans notre paysage gastronomique. Elle a 2 étoiles Michelin au fourneau de son restaurant parisien La Seine. Elle est également jurée dans l'émission Top Chef sur M6. Elle a signé de nombreux livres de recettes, dont le dernier, je l'ai à mes côtés, Le goût de la mémoire aux éditions Robert Laffont. Stéphanie Lequelec, bonjour.
Bonjour François Régis, bonjour Elvira, Jérôme, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être là, Stéphanie, enfin dans notre masterclass. On va vous cuisiner, Stéphanie, à petit feu, pendant une heure, avec des questions, des archives, des dégustations surprises, la fameuse séquence de la plaque de cuisson à laquelle vous avez accepté de vous prêter, sans oublier évidemment les temps d'échange que vous ont concocté nos 2 chroniqueurs que vous connaissez bien, Stéphanie, Elvira Masson et Jérôme Gagnaise. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à toutes et tous et bonjour Stéphanie.
Bonjour à tous, bonjour Stéphanie.
Et puis vous le savez peut-être Stéphanie, un personnage nouveau vient désormais mettre son grain de sel dans nos masterclass. C'est notre complice François Simon. Comme notre critique gastronomique protège évidemment, vous le savez, son anonymat, on a préalablement enregistré les questions qu'il va vous poser dans un instant. Cher public, on vous invite évidemment à interagir. Dans cette émission, on a même besoin de 3 volontaires pour participer à nos dégustations. Cette masterclass est réalisée par Laurent Thomas avec Fabrice Rivaud pour la préparation et l'organisation de l'émission. À la technique, Anne-Laure Cochet et Raphaël Rousseau. Pour retrouver nos masterclass et tout leur contenu, nos recettes, nos bonnes adresses, nos vidéos, rendez-vous sur radiofrance.fr à la page On va déguster.
Les masterclass On va déguster sur France Inter.
Commençons, chère Stéphanie Lequelec, par faire les présentations, notamment pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne vous situeraient pas précisément. Alors on a choisi 5 dates qui racontent et illustrent votre parcours. On commence par une première date. Que s'est-il passé le 6 décembre 1981 ?
A priori, j'ai poussé mon premier cri.
Vous êtes né dans le Val-d'Oise.
Ouais.
Et vous avez grandi dans le Val-d'Oise.
Oui, absolument, en Guin-les-Bains. Enfance très heureuse, dans une famille très aimante, un papa, une maman évidemment, une petite sœur. C'est une ville presque un peu village, c'est une autre époque aussi. Donc franchement, c'était plutôt une enfance très cool.
Un grand-père paternel qui vous emmène au marché le samedi matin?
Ouais, maternel. Un grand-père maternel qui m'emmène au marché, qui va faire son jardin aussi le mercredi après-midi. Donc du côté de Montmorency, je monte avec lui. C'est des moments un peu privilégiés où on est tous les deux, où on fait des petits carrés de terre, où je plante des radis, où on va cueillir des fraises. Et c'est le bonheur, on rentre et puis ma grand-mère les cuisine.
Et on évoque souvent dans votre parcours 3 femmes qui ont vraiment compté, notamment culinairement. Alors il y a votre mère Patricia qui cuisine très bien.
Évidemment.
Des plats bourgeois, mijotés.
Oui, de notre culture française, de notre terroir, des plats très simples mais toujours avec des bons produits parce qu'on a la culture d'aller au marché en fait. Et on a la culture aussi de ne pas aller à la cantine. J'ai la chance d'avoir une maman qui, malgré son travail, le midi, rentre à la maison une heure et nous mitonne pour ma sœur et moi des plats frais.
Et de grand-mère qui étaient également des cordons bleus, hein, Jacqueline, ouais, et Liliane.
Absolument, absolument.
Deuxième date?
Allez-y.
Alors on fait un petit bond quand même, je vous avouerai. De 1980, année de naissance, on passe à 2010. Que s'est-il passé?
2010, alors on est où en 2010?
Un mof que vous considérez comme votre maître?
Philippe Jourdain. C'est un peu avant 2010, Terre Blanche, c'est 2006. Mais en revanche, en 2010, je prends la place de Philippe Jourdain.
Ah, c'est ça, voilà. C'est ça.
Vous situez Terre Blanche ?
Alors, Terre Blanche, domaine de Terre Blanche, dans le canton de Fayence, donc on est entre Cannes et Saint-Raphaël, mais un petit peu dans les terres, donc dans cette Provence, pas maritime, mais un peu terroir, un domaine merveilleux avec des golfs, donc où je rentre en 2006, seconde Philippe Jourdain, et puis je vais franchir les étapes jusqu'à effectivement le remplacer à la tête des cuisines. Donc première place de chef, et puis effectivement la rencontre avec Philippe quelques années avant était déterminante, il est mon mentor en cuisine.
Et de cette expérience est née aussi, Stéphanie, l'empreinte méditerranéenne qui caractérise souvent votre répertoire gastronomique.
Absolument, de notre déménagement avec David en 2004.
Donc, David, on parle de
David,
votre mari.
Mon mari. Alors,
le père de vos trois fils.
Le père de mes trois fils. Donc j'ai eu mes premiers fils en 2004 et 2005. Donc c'est vrai que pendant 18 mois, j'ai mis un petit peu ma carrière entre parenthèses pour devenir maman et puis pour m'occuper de leurs premiers mois et de leurs premières années. Et puis j'ai réintégré Terre Blanche et donc on a vécu pendant 8 ans, donc de 2004 à 2012, en Provence. Et ça sera déterminant effectivement dans mon identité culinaire parce que c'est un terroir qui m'est cher. C'est une région où je me suis bien sentie, où il y a une culture du produit cueilli le matin, c'est-à-dire cette fleur de courgette qu'on va cueillir le matin, qu'on ne passe surtout pas au frigo sinon elle se referme, de ces fraises, de ces tomates, ou pareil, on ne les passe pas au frigo, on les cuisine dans la journée. Donc tout ça laissera une empreinte assez forte dans ma cuisine.
Un an plus tard, 2011, il vous arrive ça.
Ça, c'est facile, ça c'est facile.
Et je crois que ça va tout changer.
3, 2, 1, allez-y.
En 2011, elle remporte la finale du concours de cuisine télévisé Top Chef grâce à son carpaccio de truite.
C'est peut-être bien aussi d'être parti sur quelque chose de différent. J'aime bien le poisson cru, donc il faut vraiment se faire plaisir, faire un plat qu'on aimerait manger. Peut-être que ça paiera.
Vous remportez quand même, Stéphanie Le Quellec, la saison 2 de Top Chef. Vous empochez au passage un chèque de 100 000 euros qui va vous aider.
Oui, bah ça aide à démarrer, évidemment.
Évidemment, et il paraît que c'est parti d'un pari en famille, un peu idiot, qui vous a poussé à participer à cette fameuse émission.
Finalement, pas si idiot que ça, avec le recul.
Non, bah mais oui,
c'est totalement...
Pense.
Moi, je faisais beaucoup de concours à l'époque. J'en ai gagné quelques-uns, les Étoiles de Mougin, les Scoffier, etc. Et donc, c'est un mois de juillet, j'annonce à mon beau-père, donc le père de David, que je vais participer à un nouveau concours. Les Étoiles de Mougins, que c'est en septembre, qu'ils viennent me voir, etc. Et là-dessus, il me dit, mais j'ai vu la pub, ils sont en plein casting de la saison 2 de Top Chef, je suis persuadée que si t'y vas, tu gagnes, tu devrais t'inscrire. Du coup, Jean, qu'est-ce que je vais aller faire à la télé? C'est pas du tout moi, enfin, ça me ressemble pas, etc. Il m'a dit, oui, t'as peur, je te prends une bouteille de champagne que t'oses pas. Que ne ferais-je pas, Jérôme, pour une bouteille de champagne?
C'est une excellente motivation.
Il a donc été m'inscrire, je me pensais très à l'abri, et puis en définitive, j'ai été rappelée très rapidement. Puis alors, moi, comme je suis assez joueuse dans la vie, je me suis piquée au jeu de voir jusqu'où je vais dans le casting, jusqu'à cet appel de début octobre où on me dit, écoute, t'es dans les 14, on tourne dans 10 jours. J'ai dit, écoutez, laissez-moi 48 heures parce que je suis pas persuadée d'avoir envie de le faire. Mes rêves étaient ailleurs à ce moment-là. Et là, c'est un coup de fil à Philippe Jourdain, justement, on en a parlé tout à l'heure, mon mentor, qui venait de me laisser sa place à Terre Blanche. Et je lui dis, chef, je sais pas quoi faire, c'est pas pour moi, je pense pas. Il me dit, écoute, Steph, ça va te faire gagner 10 ans sur ta carrière. La télé, c'est un média fort, je pense qu'il y a un truc. Sois toi-même, fais-le bien et vas-y, quoi.
Et vous remportez tout simplement, on l'a dit, ce concours cette année-là, en 2011. Et Top Chef, Stéphanie Le Quellec vous colle décidément à la peau, car vous avez rejoint le prestigieux jury de cette émission en 2024. Alors au départ, c'était uniquement un one shot, pour employer une belle expression française. C'était uniquement pour
une saison anniversaire, une saison 15. Oui,
voilà, donc, et pour une seule fois. Et puis finalement, vous êtes resté dans le jury, compte tenu de vos grandes qualités cathodiques. Vous avez même fait sensation, Stéphanie, je ne sais pas si vous en souvenez, dans la fameuse épreuve de la boîte noire, où le MOF, meilleur ouvrier de France, Guy Krenzer, vous fait déguster à l'aveugle une préparation. On peut dire que vous avez le palais en place.
Attention Stéphanie, un bon palais. Hein.
Attends, la surification, épice orientale.
Wow. Épice orientale,
ben oui.
Ouais, elle est balèze ma copine.
C'est un jus de carotte à l'orange et avec des épices.
Ensuite, une espèce de, comme un glaçage.
Ah,
fort.
Alors, on est trop fort. Branlée, là.
Stéphanie, vous sortez de la boîte noire.
Ah, mais impressionné, Stéphanie.
Ouais, c'est bien. Ouais, c'est une bonne analyse.
C'est une chef.
Ah bah oui, c'est une chef qui sait déguster à l'aveugle, dans la fameuse boîte noire.
Il faut goûter un peu. Mais c'est une épreuve que j'adore, qui est très difficile, mais c'est très excitant, en fait, de goûter à l'aveugle. C'est la même chose sur les vins, Jérôme. Ouais. C'est très, très excitant, parce que ça fait appel à notre mémoire sensorielle au sens large, et ça, j'adore.
Et la 17e saison de Top Chef à laquelle vous participez va démarrer. Alors la date, ça y est, a été lâchée, c'est officiel. C'est le 4 mars sur M6. Avec d'ailleurs un changement total de règles. Qu'est-ce que vous pouvez juste dire ?
Pas total, mais je dirais une espèce de retour à l'ADN initial de Top Chef. Donc on revient, nous, le jury, dans un rôle un peu plus statutaire, puisque plus de brigade. Donc on va aller challenger et être relativement... Je ne vais pas dire intransigeant parce qu'on est toujours dans la bienveillance, mais on va essayer de les pousser effectivement à se transcender un peu par eux-mêmes. Et puis surtout, les cuisines de Top Chef seront fermées cette année. Le concours est itinérant et ça, c'est assez chouette puisque chaque semaine, on va pouvoir découvrir des lieux différents, des univers culinaires différents, des thématiques différentes. Donc, ce n'est pas facile pour les candidats. Et il y a un espèce de vent de fraîcheur comme ça de sortir des cuisines qui fait du bien à tout le monde.
Top Chef, saison 17, rendez-vous sur M6 le 4 mars. Que s'est-il passé ? En octobre 2019.
J'ouvre la scène, 32 avenue Matignon. Le 9 octobre 2019, c'est le saut dans le vide, c'est mon indépendance, c'est la lancée dans ma maison, ma petite maison, que j'aime profondément aujourd'hui, ça fait 6 ans.
Et c'est le choix d'un lieu particulièrement singulier, qui ne ressemble pas à d'autres restaurants étoilés.
C'était l'envie, justement, cette quête de liberté, elle est aussi salvatrice dans le propos culinaire qu'on va pouvoir tenir. Et j'avais envie, voilà, à l'aube de mes 40 ans, de créer un lieu qui me ressemble. Donc, effectivement, de ne pas faire l'énième restaurant qu'on espérait 2 étoiles d'ailleurs, on espérait raccrocher évidemment, mais quelque chose de plus chaleureux, de plus intimiste, avec un parti pris assez fort, puisque le restaurant est sur 2 étages. On rentre d'abord dans une partie un peu bistrot, puis il y a un petit côté presque un peu speakeasy, c'est-à-dire caché de la table étoilée, puisqu'il faut s'immerger dans l'univers, il faut faire cette démarche de descendre un escalier et d'arriver dans ce petit écrin, ce petit cocon où la cuisine est pleinement ouverte sur la salle et de recevoir les clients comme chez moi, comme dans mon appartement, comme je peux le faire pour mes amis.
C'est incroyable, il y a une lumière, une énergie. Nous avons eu la chance de nous y attabler ensemble. Moi, j'y suis retourné plusieurs fois, cher Jérôme Gagnès. Oui. Et je sais que vous êtes particulièrement attaché à ce lieu.
Oui, c'était un déjeuner assez extraordinaire, avec un rouget qui restera marqué dans ma mémoire assez longtemps.
Qui fait partie, vous allez le voir toujours, évidemment, du répertoire de Stéphanie.
Ouais, bien sûr. Moi, pour le coup, j'aime vraiment pas les lieux fermés. J'aime bien avoir des très grandes fenêtres. Et je me suis laissé totalement séduire par le lieu en quelques instants. Donc c'est particulièrement réussi, en fait.
Je pense qu'il embarque le lieu, et je pense qu'aujourd'hui, il fait pleinement...
Il embarque, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a un côté bateau croisé.
Oui, oui, c'est ça, oui.
Et je pense qu'il participe totalement à l'immersion du convive dans ce que je vais lui proposer à table.
2 étoiles en 2020.
La première fois que je prends 2 étoiles, c'est en 2019, en janvier 2019.
Absolument.
Au Prince de Galles. Et en effet, ouverture en octobre 2019, et dès janvier 2020, le guide Michelin joue le jeu de nous raccrocher nos 2 étoiles. Ouais.
Bon, 2021, vous vous présentez pour la 3e fois au concours des meilleurs ouvriers de France.
Ah ça y est, on parle des sujets qui fâchent, François.
Et non seulement on parle des sujets qui fâchent, mais c'est l'ami François Simon qui a une question à vous poser à ce sujet.
Stéphanie, vous qui avez un champ très personnel, pourquoi vous êtes-vous inscrite dans ce concours aux exercices aussi techniques et virilistes que celui du meilleur ouvrier de France ? Étiez-vous faite pour cela ?
Alors, merci François pour cette question. Alors, je dirais qu'il y a 2 étapes. Est-ce que j'étais faite pour cela ? Visiblement, non. Est-ce que je le regrette ? L'échec fait pas partie, enfin, a commencé à faire partie de mon mindset depuis 2021.
Vous n'avez pas beaucoup connu d'échecs, Stéphanie ?
J'en ai connu, évidemment, comme tout le monde. Mais en tout cas, je suis quelqu'un de très positif dans la vie et de très... j'essaie de toujours me donner les moyens de mes rêves. Donc, tant qu'on essaie de se donner les moyens, on exclut un peu l'échec. On se dit, on va y arriver. Je suis d'une nature vraiment très optimiste. Bon, et puis quand même, en 2021, où je me disais, j'étais prête, quoi. Je veux dire, j'étais physiquement, mentalement, enfin...
Et puis vous arrivez, attendez, excusez-nous, on veut pas enfoncer le couteau dans la plaie, mais vous arrivez en finale.
Ouais, mais 3 fois, 3 participations, oui. 3 finales. Donc maintenant, non, mais je remue le couteau, mais un peu. Mais tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que c'est pas très grave. L'essentiel de l'échec, c'est ce qu'on en fait derrière. Et derrière, j'en ai fait des trucs plutôt sympas. Alors pourquoi, je reviens à la question de François Simon, pourquoi je m'y suis jetée ? Parce que c'est un titre qui m'a fait rêver, qui probablement me fait encore un peu rêver, parce que j'ai beaucoup de respect. J'ai travaillé avec des chefs meilleurs de France. Avant Philippe Jourdain, il y a eu Philippe Legendre, au Georges V, où moi, quand j'ai 19 ans, que j'arrive dans les cuisines du Georges V et que je croise Philippe Legendre pour la première fois dans les couloirs, le col bleu, blanc, rouge, j'avais les poils qui se sont hérissés. C'est comme si j'avais pu croiser Brad Pitt. Je ne sais pas si Philippe Legendre entendra cette comparaison, mais en fait, il y avait ce côté d'un seul coup de toucher à l'inaccessible. Et je trouve que le titre, quand on aime son pays, et j'aime mon pays, quand on aime son artisanat, quand on aime son métier, un des meilleurs ouvriers de France, je trouve qu'il y a une symbolique qui est absolument magnifique. Donc oui, ce titre a pu me faire rêver, je le respecte infiniment. Je pense qu'effectivement, je n'ai pas su aller cocher les cases parce qu'il faut être... Il y a un côté presque un peu scolaire, et pardonnez-moi, et ce n'est pas un gros mot que de le dire, mais d'ailleurs, c'est un diplôme d'État, enfin, c'est reconnu comme un diplôme d'État. Donc en fait, il faut aller cocher des cases. Est-ce que aujourd'hui, dans l'exercice de ma cuisine, tel que à 44 ans, je l'aborde dans mon restaurant aujourd'hui, est-ce que je suis à même d'aller cocher ce type de case alors que je suis dans une autre démarche, dans effectivement même dans le virage du style de cuisine que j'ai pris sur les 10 dernières années, j'en suis plus si sûr, effectivement.
Dans un instant, on va faire connaissance avec votre brillant répertoire culinaire. Juste après une petite pause musicale qui va vous toucher au cœur, je le sais. Un chanteur qui fait partie évidemment de votre univers affectif, familial, musical. Charles Aznavour, voilà. Avec le titre Le Temps.
Laisse-moi guider tes pas dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule, laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court ou celui qui gronde. Le temps, le temps, le temps. Celui qu'on veut l'autre, le temps, et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps passé, celui qui va naître, le temps d'aimer et de disparaître, le temps des pleurs, le temps de la chance, le temps qui meurt, le temps des vacances. Le temps, et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre, le temps, le temps. Celui qu'on veut l'autre. Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre, le temps des jeux, le temps des affaires, le temps joyeux, le temps des mensonges, le temps frileux et le temps des songes. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps des crues, le temps des folies, le temps perdu, le temps de la vie, le temps qui vient, jamais ne s'arrête, et je sais bien que la vie est faite du temps des uns et du temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des
Charles Aznavour, Stéphanie Lecalec.
Bah, une part de ma vie très importante. Il y a toujours une époque de ma vie où une chanson d'Aznavour m'a aidée à passer au-delà, quoi. Je veux dire, j'ai eu la chance de le rencontrer, de cuisiner pour lui.
Et oui, il paraît.
Ouais, et ça, ça a été une des grandes étapes de ma vie, parce que quand vous commencez à cuisiner pour quelqu'un que vous idolâtrez à ce point, et ouais, il y a quelque chose de très émouvant de se dire que ce métier de cuisinier peut nous amener à ce type de rencontre, à ce type d'échange, et que c'est possible en fait.
Stéphanie Lecalec est l'invitée de la masterclass numéro 10 dont va déguster. Alors Stéphanie Lecalec, c'est évidemment La Seine, son restaurant gastronomique, 32 avenue de Matignon, Paris 8e, 2 étoiles au guide Michelin, mais c'est aussi une maison de cuisine, MAM, que l'on peut définir comme une boutique, traiteur.
C'est une boulangerie, pâtisserie. On y trouve tout, le salé, le sucré, l'épicerie, un rayon caviste avec mes meilleures références. Et voilà, et ma cuisine simple, en fait, c'est ma cuisine du quotidien pour tous.
Et là, on est dans le 17e.
Ouais.
rue Fourcroy.
On est rue Fourcroy, 22.
Ah, absolument. Et puis il y a également un restaurant. Bah, décidément, qu'est-ce qu'on a fait comme table ensemble, Jérôme Gagnez ?
Eh oui, je me sens un peu exclu, moi, d'ailleurs.
Vous vous souvenez de cette. Et pourtant,
mais
ça nous arrive régulièrement de, évidemment, de déjeuner ensemble.
Très, bien, très, très bien.
Alors,
ce tournage.
De quoi parle-t-on ? On parle d'une brasserie marine.
Exactement, qui est située dans le 17e arrondissement, avenue des Ternes, si mes souvenirs sont bons.
Vive ! Comme le nom d'une espèce de poisson.
Exactement, c'était on avait passé une soirée incroyable, oui.
Et Stéphanie Lequelec, c'est également un livre, Le goût de la mémoire. Alors, c'est pas du tout un livre anodin, et pour cause, il est paru il y a quelques mois. Vous êtes en couverture, affichant un large sourire. On reconnaît d'ailleurs le carrelage un peu couleur cognac de la cuisine de la Seine, votre restaurant gastronomique. Et c'est surtout un livre qui signe la renaissance de la collection humoristique Les recettes originales, vous savez, aux éditions Robert Laffont, qu'on surnomme souvent la Pléiade des cuisiniers, puisque de 1976 à 1992, ce sont quand même 23 chefs qui se sont succédés au fil de cette collection. Alors, il y a évidemment tous les monstres sacrés de la Nouvelle Cuisine, les Guérard, Trois Gros, Chapelle, Verger, Sandrin, et j'en passe. Il y a la génération d'après, les Gagnères, Jacques Maximin, Joël Robuchon. Et on se rend compte, en fait, que vous êtes, de cette collection, Stéphanie Lequelec, la première femme chef.
Ouais, c'est énorme, hein, c'est assez exceptionnel, parce qu'en effet, vous parlez de cette collection, moi, elle a habiter mon enfance et ma jeunesse de jeune cuisinière. À aucun moment j'aurais pu me dire, à l'âge de 14 ans quand je suis rentrée à l'école hôtelière, ou à l'âge de 8-9 ans quand je me suis dit que j'aimerais faire ça dans la vie, à aucun moment je pouvais m'imaginer la carrière que j'ai évidemment, et puis rentrer sur une étagère à côté de ces grands chefs qui m'ont fait rêver, qui continuent de me faire rêver, pour qui j'ai un profond respect. Donc évidemment, quand mon ami Arnaud Donquel, qui a soufflé à Robert Laffont l'idée de relancer cette collection,
puisque Arnaud Donquel, hein, chef 3 étoiles, 3 étoiles de Plénitude.
Plénitude Paris, 3 étoiles La Vague d'Or à Saint-Tropez, et immense chef, immense cuisinier, mais immense homme,
et ouais.
Immense personnalité d'une gentillesse et incroyable, m'appelle et me dit écoute, voilà, Robert Laffont, à qui j'ai soufflé l'idée de relancer la collection, a accepté, je vais relancer, mais j'aimerais une femme à mes côtés, est-ce que tu acceptes ? Alors, et d'abord, c'est mon ami Arnaud Donquel, donc évidemment, il m'aurait demandé n'importe quoi, j'aurais dit oui, mais là, en l'occurrence, c'était pas n'importe quoi, c'est une grande fierté, c'est un grand bonheur, et je suis très heureuse de ce livre, et je suis surtout très heureuse que cette collection renaissent avec d'autres ouvrages à venir, hein, Emmanuel Renaud, Arnaud Lallemand, pour ne citer qu'eux, qui arrivent dans ce courant 2026.
Et précisons que c'est notre confrère, le journaliste Thibaut Dananchet, qui coordonne cette collection. Alors, il y a dans ce livre, c'est ça que j'aime bien, à la fois vos plats signatures, des plats de haute cuisine, il y a les plats de maison. Vous ne faites pas de frontières entre ces deux registres culinaires que vous partagez souvent avec votre mari David, vos trois fils, Baptiste, Maxime et Arthur. Un petit jeu tout simple, je vous cite un plat, Stéphanie, et vous le définissez en une phrase, ou une phrase et demie. Ma pisse à la dière.
Souvenir absolu pour mes fils, ils adorent ça, donc il a fallu absolument qu'elle soit présente en version 2 étoiles sur ma table, donc pâte craquante, pisse à la maison, donc pissala, cette petite pâte, normalement à base d'alvin d'anchois, on a du mal à en trouver aujourd'hui, donc on prend des tout petits anchois extra frais qu'on fait fermenter pendant un mois, on en fait une pâte très intense qui a donné le nom à la pissaladière, et puis ce confit d'oignons doux des Cévennes, fondant à souhait, caramélisé, voilà.
Et attendez, ce petit soupçon
de girofle, évidemment.
Alors c'est ça qui fait toute la différence, c'est qu'il y a tout d'un coup un petit nuage de girofle. Alors quand on en mettra, on se croirait un peu chez le dentiste, hein, vous savez, mais juste à bonne proportion, ça apporte un relief extraordinaire à cette pisse à la dière.
C'est ça, d'où le ma pisse à la dière.
Un plat que je tiens pour l'un des meilleurs jamais goûtés, qui est vraiment un grand plat. Je ne sais pas si vous l'avez goûté, chers amis Elvira et Jérôme Gagnès, je veux parler d'un feuille à feuille. Je vous laisse en dire plus.
Feuille à feuille d'Ormeaux, c'est la rencontre entre l'Ormeaux et la tripe. Alors, moi, je fais partie d'une génération qui aime les abats, qui a envie d'en cuisiner un peu. Et en fait, je voulais cuisiner un Ormeaux, mais l'Ormeaux, on a tendance toujours à le trouver escalopé. Alors, poêlé généralement meunière, entier, puis escalopé. Et puis, il y a toujours ce sujet de texture, un petit peu avec l'Ormeaux. Et j'ai eu envie de le travailler différemment. Donc, effectivement, je le tranche très finement dans le sens inverse de la fibre, ce qui en donne une espèce de petit carpaccio. Et donc, au lieu de le cuire très longtemps, moi, je le cuis 35-40 secondes dans un beurre très noisette. Et effectivement, après, il y a un montage en feuille à feuille avec ses tripes braisées, avec relevé d'un petit peu de vinaigre. En fait, ce qui m'intéresse, c'est la similitude de texture entre la tripe qui a cuit très longtemps, donc qui est très fondante, et cet ormeau qui a cuit très peu de temps et qui est très fondante. Donc, en fait, il y a une similitude de texture quelques grains de caviar dans un beurre meunière.
Ah non, mais c'est. C'est un terre-mer, et je vous assure, dans ce terre-mer, c'est vraiment la terre et la mer qui font l'amour.
C'est dégueulasse de nous faire subir ça, là. On n'a qu'une envie, c'est de.
Vous ne l'aurez pas aujourd'hui.
C'est de le manger, ce plat.
Vous ne l'aurez pas. Il y a d'ailleurs, cher Jérôme, un autre plat que vous n'aurez pas, mais vous l'avez déjà goûté, donc tout va bien. Si je vous parle évidemment de la bécasse de la mer, d'un...
Un rouget cuit de peur.
Rouget cuit de peur. Alors ça, il a existé sous différentes versions. Son intitulé reste. Dingue. Et son principe reste.
Oui, alors, et en fait, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de voir à quel point des produits, voire des plats, peuvent accompagner un cuisinier ou une cuisinière presque tout au long d'une vie, en gardant les stigmates d'un plat, mais en évoluant du tout au tout parfois. Donc effectivement, il est toujours cuit de peur, c'est-à-dire qu'il est saisi, il va cuire très peu et très vite, à une forte température, pour en garder à la fois tout le soyeux de la chair, la jutosité, mais enfin, le rouget, il faut toujours que ce soit en légère sous-cuisson, il faut avoir ce côté vraiment encore très nacré. Et là, il est sublimé un petit peu à la flamme en ce moment, et puis avec une sauce un peu forte, à base de tanin de vin, à base de fenouil frais.
Il y a... Une petite douceur qui termine en général un repas à la scène de Stéphanie Le Quellec, qui n'est pas du tout originaire d'une région où vous avez vos racines ou une de vos régions d'adoption. Je veux parler d'un gâteau nantais.
Oui, vous l'adorez celui-là.
Oh là là. Un bibé de rhum, quel gâteau.
Ouais.
Amande, rhum, vanille.
Absolument, et ça c'est vraiment, alors ça c'est purement par goût, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'adore, le gâteau nantais, j'adore l'amande. L'amande, c'est quelque chose, c'est une passion. J'adore tout ce qui est à base d'amande.
Point commun.
Et effectivement, quand on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on va mettre en mignardise, bah, en fait, moi, je ne suis pas allé chercher très loin. J'essaye toujours de rester assez sincère et moi-même. Il y a un moment, c'est ce que j'aime manger chez moi. C'est un gâteau nantais. Alors après, encore faut-il le faire pour qu'il soit sublimé.
Ah non, mais il a un cœur fondant. Il a une petite croûte comme ça qui cracouille, comme dirait Philippe Conticini. C'est prodigieux. Vive votre gâteau nantais. Une nouvelle question de François Simon.
Stéphanie, quel est votre plat que peu de personnes comprennent, mais qui de ce fait reste votre préféré, votre chouchou secret ?
Ah !
Dans ma cuisine ?
Oui.
Eh bien, je dirais que c'est une piste que je fais en ce moment.
Ah oui.
Ça, je le fais quand je sens un peu la table.
Vous m'avez senti alors ?
Ouais, je vous ai senti. Parce que,
vous m'avez senti disponible et vous avez eu bien raison. Alors, définition de piste.
Piste, c'est un tout petit calamar de Méditerranée, mais alors vraiment, c'est une variété, mais voilà, c'est des espèces de petits calamars nains, assez rares.
Et précisons quand même qu'ils sont pêchés de manière très durable.
Voilà, c'est pour ça que je le dis, par pêcheur, Mathieu Chapelle,
au Gros du Roi.
Côté fiche, au Gros du Roi, qu'on adore. Et donc, encore une fois, mon affect à la Méditerranée, ces produits que j'ai cuisinés, que j'ai connus pendant mes années Provence, j'ai envie de les avoir de temps en temps à Paris. Donc j'ai appelé Mathieu, je lui ai dit, j'aimerais faire un peu de piste de temps en temps quand on a. Alors on les distille, hein, on a un kilo toutes les deux semaines, hein. Enfin je veux dire, on ne fait pas grand-chose. Et donc elles sont... Là aussi, à peine cuite, sur un petit barbecue à braise descendante. Et la sauce, qui est une sauce très noire, très intense, mais pas à base d'encre de sèche, parce que ça serait la facilité, ça ne m'intéressait pas trop. Mais à base d'une eau de riz noir, c'est-à-dire qu'on prend un riz noir de Camargue, qu'on va cuisiner avec un bouillon de poule assez riche, avec un joli gras de volaille. Ce riz va libérer toute une saveur dans l'eau. On n'utilise pas le riz, qu'on garde pour une autre utilisation. Et cette eau, je la réduis. On l'émulsionne avec un tout petit peu de ce gras de volaille. Et on va réveiller l'ensemble du plat avec un gel de piment au vinaigre.
Prodigieux.
Oh, ça a l'air génial.
Deux pistes qui arrivent, qui ont cette texture évidemment soyeuse, évanescente. Le léger goût du charbon japonais, le michotan, ce contraste chromatique, le blanc, le noir, cette sauce d'une... profondeur et d'un soyeux aussi extraordinaire.
D'une sapidité, ouais.
Ça,
c'est un plat compliqué à comprendre. Bah, en fait, pour moi, c'est un plat qui peut être clivant. La question de François Simon, je réponds ça, c'est un plat que j'adore, mais c'est un plat que je peux aussi comprendre si on passe à côté, parce qu'il y a des histoires de mâche, il y a des histoires de profondeur. C'est un plat qui laisse pas indifférent. Je pense que c'est ce type de plat on adore ou on déteste.
Parlons d'un plat radical, en fait.
Radical, ouais.
On passe à la séquence tant attendue du troc gourmand.
Ah.
Vous la connaissez Stéphanie, c'est un échange entre nous de bons procédés et de bons produits. Vous nous faites goûter une surprise comestible et en échange on vous réserve une surprise. Alors nous accueillons pour déguster avec nous un auditeur et une auditrice. Bonjour Florence.
Bonjour.
Bonjour Fémy.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Super bien.
Est-ce que vous avez les palettes disponibles ?
Totalement.
Ouvertes.
Stéphanie, c'est votre surprise. On n'a rien le droit d'en savoir. On va dire qu'on a une préparation relativement fluide dans nos cuillères. Fémy, Florence, à vos cuillères. Fémy.
Alors, on est sur une sorte de
compote, j'ai l'impression de sentir la poire, j'ai l'impression de sentir la pomme. Il y a un petit épice, je sais pas ce que c'est, mais là aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de clou de girofle?
Non. Non, mais il y a de l'idée sur la texture,
c'est bon.
Compote.
Ouais, ouais, et puis
il y a une acidité quand même.
Ouais, acidité,
tu pourrais faire plus penser à la rhubarbe, peut-être, mais pas sûr.
Florence?
Une texture qui a une petite âpreté. Je ne sens pas d'épices de mon côté.
Peut-être un petit trait de vinaigre ou un trait d'un verjus de quelque chose.
Vous mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant. La trame, c'est l'acidité.
Alors, je pensais à un ajout extérieur ou alors à un fruit en légère sous-maturité. Enfin, ça me fait penser à une acidité.
On est sur quelque chose, c'est monoproduit. Il n'y a pas d'ajout de rien du tout.
Donc, on élimine. Ce n'est pas de la rhubarbe, parce que vous n'avez pas tiqué.
Non.
C'est pas de la pomme, c'est pas de la poire, c'est pas du coin.
C'est pas de la nef ou un truc comme ça.
Non.
C'est pas un fruit.
C'est pas un fruit en tant que tel. C'est une partie d'un fruit.
Parce qu'alors moi, il y avait une dimension fruitée. J'étais comme Fumi.
Ouais,
moi
aussi. Ouais, totalement dans la poire au début. Mais... Ouais.
Vous diriez quoi?
J'ai pensé à prune humée bofume, mais non.
En tout cas, c'est pas la générosité. Hein, parce qu'on a un goût de cuillère.
Non, vous êtes pas mal quand même dans les commentaires. Vous êtes pas mal, ça goûte bien.
Ça peut être la peau du fruit.
C'est pas la peau, mais c'est bel et bien la partie d'un fruit.
Les pépins.
On n'est pas trop loin.
C'est un fruit qu'on a l'habitude de déguster plutôt sucré, salé.
On déguste une des parties de ce fruit qu'on va travailler derrière avant de réaliser une préparation qu'on dégustera en dessert.
L'amande, l'amandonde, non.
Non. La trame acidité est importante parce que...
C'est un agrume ?
C'est pas un agrume. Et à ma connaissance, c'est pas cultivé en France métropolitaine.
Ah, d'accord.
Mais c'est pas le litchi ?
Alors, c'est pas le litchi, mais c'est intéressant, François, parce qu'on peut avoir ces notes de litchi. Moi, j'en réalise un sorbet à la scène de cette pâte. Et à l'aveugle, on peut être sur des saveurs de litchi quand c'est travaillé en sorbet.
Le tamarin non plus.
Non plus.
Tamarin, ça aurait été intéressant avec l'acidité.
C'est pas le kaki. Mais figurez-vous que c'est l'enveloppe intérieure d'un fruit qui est assez gros.
Ah.
Le cacao?
Le cacao, waouh.
Incroyable. Mais c'est le mucilage.
C'est le mucilage. Et donc là, c'est une pâte de mucilage à 100% bio.
Ça alors?
C'est la chocolaterie de l'Opéra, sinon on travaille aussi avec la maison du planteur. Donc c'est vraiment le mucilage, c'est cette pulpe blanche qui enveloppe les fèves de cacao à l'intérieur de la cabosse.
Un peu gélatineuse.
Un peu gélatineuse. Très acidulé. Et à l'instar de ce que j'aime faire dans ma cuisine, c'est-à-dire quand on fait un rouget, on va essayer de travailler avec toutes les parties du rouget. Quand on fait un dessert chocolat, moi je suis pas une grande fan de chocolat, mais quand je fais un dessert chocolat, j'aime bien m'amuser à travailler toutes les parties. Et donc je trouve que ça rafraîchit un dessert chocolat. Donc voilà, je vous ai fait goûter.
Mais il n'y a aucune. L'acidité est naturelle.
Est naturelle.
Ouais. C'est pas lié à un processus de transformation.
Non.
Incroyable. Ça alors. Et même la couleur. La couleur, on était sur une espèce de jaune pâle, un peu pastel.
Ouais. Un peu pomme, entre pomme et rhubarbe.
Ouais. Étonnant, hein. Merci Stéphanie pour cette belle surprise. Alors, maintenant, c'est nous qui allons jouer avec vous.
Allez, j'adore.
Circuler autour de vos micros, c'est parti. Fémy, vous avez reconnu cet objet culinaire?
Alors, normalement, tout le monde est capable de la reconnaître, la madeleine.
Bravo.
Mais qu'est-ce qu'elle cache comme secret? Ça, c'est une autre question.
Elle est évidemment bien bossue.
Ouais.
On la goûte, on la commente.
Je vois qu'elle frétille, Stéphanie. Ouais.
Le dessous de la madeleine, il est assez humide.
Oui, c'est vrai.
Il est un peu mouillé. C'est très bon, hein?
Alors que la texture extérieure...
Elle est bien, c'est bien, c'est un petit peu croustillant.
C'est
un petit imbibage, effectivement, avec probablement un petit taux de fleur d'oranger.
Absolument, il y a une petite trame fleurie. Mais
très délicate,
oui,
et très élégante.
Pas trop.
Ouais, parce que la fleur d'oranger... Dieu sait que ça peut être rapidement savonné et entêtant. Et là, je la trouve très élégante.
Vous aimez ou pas, Florence?
J'adore.
Et elle est bien sucrée en plus.
Bien équilibrée.
Elle est bien sucrée.
Vous aimez?
Oui, madame. Oui, madame Le Kellec, elle est bien sucrée. Oui,
c'est
j'aime
vraiment
beaucoup,
délicieux.
Oui.
Ouais.
Alors,
puis la fleur d'oranger, ça apporte
un truc. Et elle est très légère en texture. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est très aérienne. Mais parfois, la madeleine, ça peut être un peu dense. Et là, je la trouve très évanescente. Elle est très, très bonne.
C'est une madeleine qui part un peu en voyage, on peut le dire. Vous avez une idée de qui vous a préparé ça? Vous voulez la solution déjà?
Alors, non, parce que... Alors là, non, parce qu'en fin de compte, je vais vous dire...
Quoi?
Ça me rappelle une madeleine que j'ai déjà goûtée.
Ah, bon, on s'approche. Alors, évidemment, on vous donne la réponse, ma chère Stéphanie.
Il aurait cuisiné pour moi, et non.
Salut, c'est Jorick Dorignac, chef exécutif des Maisons Le Quélec, et aujourd'hui j'ai décidé de préparer pour Stéphanie ma madeleine de l'Orient Express.
Si tu sers une madeleine trop plate, on descend du train et on rentre chez nous. Hein. Toi, tu rentres chez toi, moi je rentre chez moi. Hein.
Bien sûr, chef.
C'est pas l'idée. Et ton concours s'arrête là. Hein.
C'est pas l'idée.
T'as fait un trop beau parcours pour t'arrêter là sur une madeleine. Hein.
J'ai décidé de mettre dans cette madeleine beaucoup de cœur, beaucoup de goût et beaucoup de profondeur avec les agrumes que j'adore, un petit peu d'huile de pistache et fleurs d'oranger et une pointe d'eau de rose, vraiment très très léger. Stéphanie vraiment a été traumatisée de cette madeleine et ne veut plus en entendre parler aujourd'hui, donc j'ai décidé de lui faire ça pour lui faire plaisir.
La madeleine de la
bien
gagne.
Joué, bien joué, bien joué, bien joué, merci Jojo. Non mais elle m'a traumatisée parce que si on revient sur la saison 15 de Top Chef et ma rencontre avec Jorick qui a été une vraie rencontre, c'est-à-dire qu'au-delà de l'émission, au-delà de aujourd'hui, bon bah la preuve, hein, il est devenu mon bras droit.
Et il a gagné.
Chef sur les maisons, et il a gagné
cette saison-là.
Et en fait justement, elle m'a traumatisée parce que j'ai découvert un candidat tellement brillant, au service duquel je me suis mise en tant que coach. C'est-à-dire qu'il n'était pas envisageable qu'il ne gagne pas la saison 15.
Oui, la compétitrice ou pas ?
Quand on s'est retrouvé dans l'Orient Express sur cette épreuve éliminatoire, donc effectivement, on a été traumatisés, lui et moi, je lui ai mis une pression maximale sur cette épreuve qu'il a gagnée pour pouvoir gagner la saison derrière et rejoindre les maisons depuis un an et demi maintenant.
Vous faites décidément votre marché dans les équipes de Top Chef, puisqu'il y a également un certain Quentin qui vous a rejoint.
Ouais.
Et une certaine Ambre,
ouais, absolument.
Présente dans ce studio.
Voilà. En fait, ce qu'il y a de formidable avec Top Chef, mais avec nos métiers d'une manière générale, c'est les gens qu'on rencontre, les chemins qui se croisent, les valeurs communes qu'on peut découvrir et l'envie ou non de faire un bout de chemin ensemble. Et effectivement, sur Top Chef, en tout cas sur cette saison 15, j'ai fait trois rencontres formidables et mutuelles, je crois, parce qu'ils m'ont suivi aussi pour ces raisons-là. Et c'est ça qui est génial. Donc en fait, quand on dit que oui, c'est de la transmission, que oui, c'est des rencontres, bah, c'est pas que du flan, parce que ça se transforme parfois dans des collaborations hyper chouettes.
La madeleine aux accents orientaux, signée Jorick Dorignac. Merci beaucoup, Fémy et Florence. On vous laisse rejoindre vos places, et merci beaucoup pour avoir mis votre grain de sel et votre grain de sucre.
Merci beaucoup.
Dans cette émission, il est l'heure du temps d'échange organisé par Elvira Masson.
On va déguster sur France Inter.
Alors on l'a compris, vous avez une vie très très prenante à Paris, avec vos maisons. Vous avez un tropisme méditerranéen très fort, mais il y a également un autre port d'attache qui vous est cher, c'est votre maison en Normandie.
Absolument.
Alors une Normandie qui est celle du pays de Caux, du côté de Fécamp, pas très loin de Veules-les-Roses. À quoi ressemble votre vie normande? Est-ce qu'elle vous sert à décompresser? Et qu'est-ce que ce repos peut être, repos, je ne sais pas, peut-être d'ailleurs que vous travaillez du matin au soir quand vous êtes en famille en Normandie, qu'est-ce que ça vous apporte?
C'est une merveilleuse soupape de décompression, c'est-à-dire que quand je termine le service du vendredi et que vers 23h avec David, on prend la route, c'est merveilleux parce qu'il n'y a plus personne sur la route à cette heure-là, et qu'1h45 après, on passe le portail, que même s'il est 1h du matin, souvent on s'allume un petit feu de cheminée et on se sert un petit verre, et d'un seul coup c'est le début du week-end et on tient à avoir deux nuits là-bas. C'est pour ça qu'on part souvent le vendredi soir, parce que c'est important d'avoir la nuit du vendredi et la nuit du samedi. Et en fait, bah, c'est le bonheur parce que c'est une maison dans un petit village, il y a 200 habitants. On peut des fois ne croiser personne, on est dans notre monde. J'aime autant cette maison et cette région en hiver qu'en été parce que pour moi, il y a toujours un peu de cuisine quand même, hein. La cuisine n'est jamais loin, mais c'est la cuisine de la Bresse. Donc l'été dehors au barbecue et l'hiver à la cheminée. Je n'allume quasiment jamais une plaque de cuisson, quasiment jamais un four et tout se passe avec la maîtrise du feu qui me renvoie à l'essence même du métier de cuisinière ou de cuisinier, qui est la maîtrise de la flamme, la maîtrise de la cuisson. Et il y a un côté très, très sensuel, en fait, et de sensibilité extrême dans cette maîtrise. Donc, ça m'excite beaucoup de cuisiner de cette manière-là. Et puis, bah, c'est aller prendre le vent marin quand même, parce qu'on a la chance d'être à un quart d'heure de la mer. Donc, c'est quand même aller prendre les embruns marins, chercher chez Martine, notre pêcheuse à Veules-les-Roses, ou chez Gillot, les huîtres à côté, les produits qu'on ramène, qu'on cuisine très simplement. Et là, on revient à Paris le dimanche soir, après un apéritif léger, sans alcool souvent, parce qu'on reprend la route. On revient revigoré, et d'un seul coup, même si je bosse un peu là-bas, même si j'ouvre mon ordinateur, mais c'est toujours avec le matin, avec une tasse de café au coin du feu, etc., bah, c'est pas pareil. Donc ça me fait du bien.
Vous parlez de Martine, qui est pêcheuse à Veules-les-Roses.
Ouais.
Vous avez le temps de faire le marché aussi, quand vous êtes chez vous, parce que le paradoxe, peut-être, de votre condition de chef, c'est qu'on a guère le temps pour cette vie-là. Les produits magnifiques arrivent à vous, mais ils arrivent sans que vous vous déplaciez, sans que vous alliez au contact des maraîchers, des cultivateurs.
Alors moi, c'est essentiel pour moi. Même quand je suis à Paris, je vais faire le marché, parce qu'en fait, moi j'ai un processus créatif, je ne sais pas ouvrir un carnet et dessiner, je ne sais pas faire ça. D'abord, je dessine très mal. Et en fait, la cuisine, moi, me vient par la vue des produits et après, me vient en la faisant. C'est comme dans un jeu vidéo. Il faut débloquer les niveaux, mais je ne peux les débloquer qu'en prenant un couteau et en faisant la cuisine. Donc voilà. Donc oui, faire le marché, aller à la rencontre des producteurs, des maraîchers, des pêcheurs, etc. Mais au-delà de ça, même d'un simple marché, c'est très important pour moi parce que c'est ça qui fait naître souvent l'intention première de cuisine.
Alors, votre Normandie à vous, c'est celle du Pays de Caux, c'est magnifique, mais le Pays d'Auge, c'est très beau aussi. Et c'est là qu'est installée Blandine Barthélémy. À Valorbiquet, elle pratique un artisanat sans machine pour objets sensibles de demain, je la cite. Et moi, je suis très sensible à sa démarche et aux objets qu'elle crée. Louches, spatules, cuillères, des pièces uniques en bois du Pays d'Auge, des objets fonctionnels pour tous les jours et uniques, qu'elle façonne avec des outils manuels, du tronc à la pièce finie. Alors mon petit cadeau pour vous, parce que c'est une tradition de cette masterclass, c'est ceci, dans cette enveloppe. Je vous laisse l'ouvrir.
Oh. Très gâtée, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Elvira.
C'est un petit couteau à beurre ou à confiture.
Oui.
Ou à mucilage de cacao. Je ne sais pas, on peut étaler ça.
Ce sera plutôt à beurre parce qu'on aime quand même un bon beurre.
Et c'est du bois de merisier local.
Bois de merisier local. En plus, c'est une essence extraordinaire, le merisier. On parle de ce cerisier sauvage. Ouais.
C'est absolument sublime, en une seule pièce, le détail même sur le manche, vraiment chaque petit trait, c'est absolument sublime. Mais comme quoi, il y a un artisanat, il y a une richesse quand même.
On savait que vous étiez très sensible à l'artisanat et à la poétique de l'objet, en plus de sa fonctionnalité. Donc ça nous tenait à cœur de vous l'offrir.
Merci infiniment.
Blandine Barthélémy, par ailleurs, elle est également paysanne. Elle tient avec sa compagne Céline Duval un écolieu qui s'appelle le Champ des Ours, qui est à Valorbiquet toujours, et qui est vraiment un potager nourrit. Un lieu de résidence à visiter, au hasard de vos pérégrinations
avec grand plaisir.
Du week-end.
Mais on va en
tout
cas.
Je vais me précipiter chez cette dame pour acheter des cuillères pour ma mayonnaise.
Indiquer les contacts de cette artisane extraordinaire sur franceinter.fr à la page. On va déguster dans un instant Stéphanie Lekelec. C'est un exercice très attendu de cette masterclass. La plaque de cuisson, quelques minutes pour nous préparer un plat signature juste après ça.
Yeah.
Orange County de Gorillaz. C'est un titre qui met la pêche avec ce petit sifflement joyeux. Stéphanie Lekelec s'est levée, elle a enfilé son micro-casque et elle est passée derrière le plan de travail dont va déguster où se trouve notre plate de cuisson.
Les masterclass dont va déguster.
Menu, please.
Sur France Inter.
Stéphanie Lekelec, la chef de La Seine, un restaurant qu'on aime tant, Paris 8e et juré dans l'émission Top Chef. Alors vous connaissez cette épreuve de la plaque de cuisson, simplement, chère Stéphanie, vous avez décidé de faire les choses autrement, et c'est une première dans ces masterclass. Vous nous avez dit, non, tu peux garder ta plaque de cuisson dans ton placard.
Ce qui marche jamais vraiment bien d'ailleurs, François-Régis, on peut se le dire.
C'est vrai qu'elle sonne.
Je suis toujours un peu en galère avec cette plaque de cuisson, donc là j'ai résolu le problème aujourd'hui.
Et pour cause, pas besoin de plaque de cuisson, Stéphanie, pour faire une recette qui raconte une forme de virage esthétique, artistique, culinaire, peut-être un peu tranchant. J'ai eu l'occasion moi-même de goûter ce plat et vous allez voir, sans trop divulgâcher l'affaire, que c'est un véritable uppercut. Je vous laisse la parole.
Oui, donc en fin de compte, aujourd'hui, François-Régis, on parlait de la Normandie tout à l'heure, et moi, la Saint-Jacques, elle n'est jamais si bonne que quand je vais l'acheter, elle a été pêchée dans la nuit, je rentre à la maison, je l'ouvre à la minute, je mets un coup de couteau dessus, un peu de jus de citron, un peu d'huile d'olive, un peu de fleur de sel, et là, elle a une mâche qui est incomparable. Et aujourd'hui, finalement, le virage que j'ai pris il y a quelques années dans ma cuisine, c'est de gommer effectivement toute cette belle technique que j'ai apprise, et puis de me poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de retranscrire, qu'est-ce que la cuisine pour moi, et finalement de se dire que c'est dans sa plus belle simplicité parfois que le produit est... Voilà. Donc finalement, cette Saint-Jacques, on va l'ouvrir à la table du client à La Seine.
Eh oui, j'ai donc vécu là, cette expérience.
On a triché un petit peu, on n'a que 5 minutes, donc voilà. Parce qu'une Saint-Jacques qui est ouverte à la minute, elle a une fermeté, elle a un toucher de bouche, elle a un soyeux qui est incomparable. Et alors après ça, ça va être très simple, parce que finalement, on la découpe en deux, tout simplement. C'est ce que j'appelle un plat de produit, celui-ci, c'est-à-dire que ça va tourner autour de la Saint-Jacques et de l'oursin. La trame de menu est à 90% marine, puis végétale, et carnée en dernier lieu. C'est pas que ça m'intéresse pas, ou c'est même pas un parti pris, même si je trouve que c'est assez cohérent avec l'époque dans laquelle on vit, mais c'est surtout que j'ai passé 8 ans de ma vie en Provence, j'ai une maison en Normandie, j'ai épousé un Breton. Finalement, le territoire marin, il fait partie de moi. Une fois que ces Saint-Jacques sont coupés en deux, bah c'est très simple. On va les baigner d'un jus de citron frais. Donc on arrive dans la saison du citron de Menton, non traité, bio. Et là, ça va saisir la chair en fin de compte. Ça va lui donner de la vivacité. Le zeste du citron est important aussi. Donc un tout petit peu comme ça à la minute. Et donc ça nous donne aussi l'occasion d'échanger avec le client. C'est très important aussi. Parce que la table, c'est d'essayer de lui donner un peu autre chose que juste le nourrir, de lui donner un peu d'humain.
Là, vous avez fait quoi ?
Là, j'ai mis un petit peu de fleur de sel, un petit tour de moulin à poivre. Et alors, parallèlement à ça, j'ai ouvert des oursins. Alors là, je suis allée en Galice chercher les oursins. Là, ce qui m'intéresse dans ce plat-là, c'est un peu la violence de l'oursin. C'est son côté très percutant, très profond. Donc l'oursin de Galice a un iode assez présent qui va venir comme ça titiller, réveiller, secouer un petit peu la délicatesse de la chair de Saint-Jacques. Donc je les ai ouverts, j'ai récupéré donc les petites langues, c'est-à-dire ces petites parties oranges. Et ensuite je les ai mixées avec simplement un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de jus de citron et un tout petit peu de sauce soja blanche qui donne un peu de profondeur. Un petit côté, alors même si le mot on l'a entendu 1000 fois et qu'il est galvaudé...
Vous allez dire umami, je crois.
Non, sapidité.
Sapidité, c'est bien.
Donc on va remettre deux petites langues d'oursin dans le fond de l'assiette, comme ça. Et puis après, il va y avoir un tout petit contraste végétal qui va être apporté par une huile et une purée de livèche. Donc là, on est quand même sur des choses assez présentes. Donc
la j'en mets très peu. Effectivement,
trois petits points de coulis de livèche.
Une cousine de ce céleri. On peut utiliser du céleri, Stéphanie, pour faire ça
on
à la maison.
On peut utiliser du céleri branche et oui. On prendra plutôt les feuilles un peu vertes. Et puis bah là, c'est un peu terminé, j'ai envie de vous dire. Hop, je dépose les deux Saint-Jacques. Et puis après, bah, c'est, un plat en trois coups de cuillère, un plat qui ouvre un petit peu la trame de menu chez moi.
C'est Anthony qui est en train de prendre place au micro et qui va jouer au cobaye consentant.
Bonjour.
Vous êtes gourmet ?
Plutôt.
La Saint-Jacques crue, ça vous effraie pas ?
Non, j'ai un beau-père qui habite près d'Erquy, donc la Saint-Jacques...
Le berceau de la Saint-Jacques.
Saint-Jacques Breton.
Exactement.
Stéphanie, je vous laisse nous redonner l'intitulé précis, comme si on était au restaurant La Seine, du plat que vous venez de nous préparer.
La Saint-Jacques, ouverte à la minute, oursin-livèche.
Merci. Anthony, à vous l'honneur. La cuillère est une bonne stratégie.
Parce que, il faut aller chercher ce jus d'ours en dessous, c'est très important. Il faut faire les bouches, ce qu'on appelle les bouchées parfaites. Un peu.
C'est ce qu'on apprend aux enfants, les bouchées parfaites. Exceptionnel. Le végétal, l'acide et la Saint-Jacques, c'est très intéressant. Puis la mâche, vraiment, de la Saint-Jacques, avec cette épaisseur, c'est très intéressant.
Mais c'est vrai, cette mâche de Saint-Jacques,
On dirait qu'elle est sortie des flots à l'instant.
Mais croquante et fondante, avec des nuances lactées, mais c'est pas très puissant. En revanche, c'est rehaussé, effectivement, par
Et l'angle d'oursin, enfin, l'oursin vient complètement exaucer l'iode de la Saint-Jacques. La Saint-Jacques est douce, glissante. Et c'est l'oursin qui vient la fouetter, lui donner presque un embrun, quoi.
Voilà, et la sauce. Oh. Il y a l'ardence de l'huile d'olive, la profondeur très complexe de l'oursin, qui est décidément une saveur étourdissante, entre suavité, légère amertume, le sel.
Mais c'est un plat étourdissant et frais à la fois.
Merci, c'est un plat que j'aime beaucoup. Ouais.
C'est assez stupéfiant. On aimerait bien votre avis, Jérôme Gagnez.
J'ai toujours une crainte avec l'oursin parce que c'est extrêmement puissant. Quand on mange ensemble un morceau de langue d'oursin et un morceau de cette Saint-Jacques qui est extraordinaire, de suavité, et cette sauce derrière, ça fait un plat avec énormément de caractère. Et en même temps, en fait, on est désarçonné par la finesse de l'ensemble.
C'est paradoxal, ouais.
La délicatesse et la puissance à la fois, c'est ce qui fait certainement l'équilibre des grands plats.
Et puis je pense que c'est un peu aussi la cuisine qui me plaît aujourd'hui, celle dans laquelle j'ai envie d'aller, c'est-à-dire ce jeu d'équilibre avec à la fois des saveurs très marquées, des produits qui peuvent être parfois un peu clivants, mais comment arriver justement à les emmener dans un registre pour faire adhérer tout le monde, en fait. C'est un peu ça, l'exercice de cuisine qui m'excite un peu aujourd'hui.
Et on peut faire très facilement cette recette à la maison, à condition évidemment de sourcer de bonnes Saint-Jacques. C'est encore la saison jusqu'au début du printemps. Merci Anthony d'avoir dégusté avec nous. C'est l'heure de votre temps d'échange, Stéphanie Lequelec, avec celui que vous connaissez bien. Il sert le vin dans cette émission, c'est Jérôme Gagnez.
On va déguster sur France Inter.
J'ai versé un vin blanc dans le verre, c'est à l'aveugle, chère Stéphanie.
Ah.
Je me suis rencardé un petit peu auprès d'un certain Mathias Ménard, chef sommelier de la Seine, excellent sommelier, alerte, vif et toujours pertinent. Donc c'est un bonheur d'aller s'attabler chez vous parce qu'on sait que... Enfin, en tout cas, moi, je sais que je vais pouvoir me reposer, que je ne bosse pas en sommellerie. Alors, il m'a rencardé un peu, et donc, évidemment, je n'ai pas suivi ses conseils. Alors, j'ai choisi un vin qui, à mon sens, permettait de relever deux défis. Le premier, c'est de vous plaire. J'espère que ce sera le cas.
C'est le cas.
Le deuxième, c'était d'affronter ce plat d'une puissance hors norme.
Ben, ça va.
Ouais, parce qu'il y a une belle salinité sur la fin de bouche.
Mais oui, il tient la route. Et puis, attendez, il a du volume aromatique qui lui permet de résister au plat.
Et de la mâche. Voilà, il a un toucher de bouche pareil. Il y a vraiment de la matière.
Exactement.
Dans
Merci beaucoup, Stéphanie, de le dire, parce que c'est exactement ce que je cherchais. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça pourrait être, Stéphanie, de la région d'où il pourrait venir?
Il y a beaucoup d'ampleur, beaucoup de richesse, des beaux amers qui pourraient parfois faire penser peut-être à la moitié sud. Et en même temps, je trouve qu'il y a quand même une salinité et une finale, parce que c'est pas lourdingue, quoi, vous voyez ?
Pas du tout.
Donc, plutôt dans le Rhône ?
Ouais, exactement. Plein cœur du Rhône, Rhône Sud, donc vallée du Rhône méridionale, dans une appellation qui s'appelle Valréas, Côte du Rhône Village, Valréas. Et c'est un domaine qui produit un blanc. Cette cuvée s'appelle Échalas, une pure roussane.
On parle d'un cépage blanc emblématique
de la vallée du Rhône, Sud. Et aussi un peu nord, parce qu'on en trouve en Crozes-Hermitage, en Saint-Joseph et en Hermitage. Ce sont des vignes qui sont plantées en échalas, c'est-à-dire, vous savez, ce sont des gros piquets en bois sur lesquels grimpe la vigne. Ce mode de conduite permet une bonne exposition foliaire, permet de tenir la vigne avec des vents. On est à 410 mètres d'altitude. Ce sont des vendanges qui sont très tardives. Ce sont des roussanes qui sont récoltées en général fin octobre. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, parce que ça donne cette richesse de constitution, cette ampleur, cette puissance. C'est échalas, évidemment,
l'accord
qui
est remarquable.
Merci.
Mais remarquable, parce qu'effectivement, les beaux amers du vin viennent souligner les beaux amers de l'oursin. Et franchement, le mariage est merveilleux.
Voilà, ça s'appelle le Clos Bellane, Côte-du-Rhône-Village, Valréas, Roussanne cuvée Échalas 2018. Vous repartez évidemment pas les mains vides. Un autre vin méridional, pour le coup, ça c'est des très très vieilles clairettes de préphylloxérie qui ont plus de 100 ans d'âge. Ça s'appelle Montfaucon, cuvée la baronne, de la comtesse de Montfaucon, pardon. C'est une petite merveille 2017.
Et vous je vais vous dire, 2017, c'est l'année d'Arthur, mon dernier fils, millésime, cher à mon cœur. Merci infiniment Jérôme. Et,
tout voilà. Et vous me donnerez des nouvelles de cette cuvée dignement choisie par Jérôme Gagnaise. On termine avec une question, s'il y en a une. Monsieur, vous vous appelez comment ?
Thomas.
Question à Stéphanie Lecalec.
Est-ce qu'il y a une région de France ou du monde que vous aimeriez explorer, culinairement parlant ?
J'ai la chance de pouvoir voyager pas mal. Tout m'intéresse. Je dirais que ce que je connais peut-être culinairement le moins bien, c'est la partie sud-américaine. C'est une gastronomie que je connais probablement pas suffisamment, mais qui m'intéresserait beaucoup de découvrir. Ouais.
Un immense merci Stéphanie Lecalec d'avoir participé avec tant de talent et de brio à cette 10e masterclass Le goût de la mémoire avec Thibaut Dananchet, Robert Laffont. Un super bouquin que vous pouvez vous procurer. Une annonce à vous faire, chers auditeurs et chères auditrices. Il y a quelques semaines, la députée Olivia Grégoire a déposé une proposition de loi sur l'éducation alimentaire qui doit être examinée à l'Assemblée nationale demain. Lundi 16 février, bien à la veille de ces débats et plus largement des prochaines municipales, notre consoeur Camille Labrou, journaliste au Monde et fondatrice de l'école comestible qui défend une éducation à une alimentation saine, soutenable, accessible et savoureuse et qui dispense de super parcours pédagogiques de la terre à l'assiette dans les écoles, lance un appel aux élus pour une éducation à une alimentation durable et solidaire. On y croit, dès l'école, voilà. On a mis en ligne sa tribune sur le site de l'émission. Allez en prendre connaissance, faites-vous une idée, faites-la passer éventuellement et signez-la, pourquoi pas. Et justement, la semaine prochaine, nous consacrons notre émission à la question brûlante des cantines scolaires. Cette question s'invite dans la campagne des municipales. À dimanche prochain.